Vous êtes bien à l'écoute d'RFI, 4h à Paris, 3h temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Une partie du Moyen-Orient tourne le dos à Donald Trump au sujet de sa proposition de déplacer les Palestiniens de Gaza. 5 chancelleries ont adressé ce samedi une fin de non-recevoir au président américain. Dans le même temps, le Hamas et Israël ont procédé à un 4e échange de prisonniers depuis le début de la trêve. 3 otages israéliens ont été libérés par le groupe islamiste contre 182 détenus palestiniens. Après le Mexique, c'est au tour du Canada d'annoncer des droits de douane en représailles à ceux imposés par Donald Trump aux deux pays et à la Chine ce samedi. On reviendra aussi sur la condamnation par le G7 de l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. De son côté, le président burundais Évariste Ndayishimiye dit craindre un embrasement régional du conflit. Et puis, c'est probablement le plus grand exploit de l'histoire du MMA français. Nassourdine Imavov a mis KO en 2 reprises Israël Adesanya, légende de la catégorie des poids moyens. À 5 États, c'est plus simple pour se faire entendre face à Donald Trump. Les représentants des diplomaties égyptiennes, jordaniennes, émiraties, saoudiennes et qatariennes se réunissaient au Caire en Égypte ce samedi. Et cette coalition a donc rejeté tout déplacement forcé des Palestiniens hors de Gaza. Une proposition du président américain qui mentionnait la Jordanie et l'Égypte comme pays pouvant accueillir les Gazaouis. Idée déjà évacuée par le roi de Jordanie et le président égyptien mercredi. Donald Trump a donc enregistré un deuxième revers sur la même question, Joseph Clément.
Merci, mais non merci. Réunis dans la capitale égyptienne, les représentants de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, de l'Égypte, du Qatar, des Émirats Arabes Unis, ainsi que l'autorité palestinienne et de la Ligue Arabe, les participants ont publié un communiqué commun. « Nous rejetons, écrivent-ils, toute tentative de compromettre les droits des Palestiniens, quelles que soient les circonstances ou justifications. » Difficile de ne pas voir dans ces lignes une réponse au plan de Donald Trump qui expliquait vouloir alléger le fardeau des Gazaouis, obligés de vivre dans une enclave aux bâtiments pour la plupart détruits, en leur proposant d'émigrer en Jordanie ou en Égypte. Les 5 pays arabes associés au communiqué veulent la prolongation du cessez-le-feu, une reconstruction de Gaza, le tout pour aboutir à la création d'un État palestinien dans la droite ligne des résolutions de l'ONU. C'est donc la réponse officielle des pays arabes envoyés à la Maison-Blanche. Reste que la majorité des habitants de Gaza dorment sous des tentes actuellement et qu'une reconstruction prendra vraisemblablement plusieurs années. Joseph Clément, Riyad, RFI.
Abdel Fattah al-Sissi, le président égyptien, a toutefois ajouté ce samedi que la communauté internationale comptait sur Donald Trump pour parvenir à un accord de paix permanent. Ce samedi, toujours, Israël a confirmé vouloir reprendre dès lundi les négociations sur la deuxième phase de l'accord de trêve avec le Hamas. Des discussions qui se tiendront à Washington. Les deux camps ne vont pas communiquer directement, mais passer par les médiateurs américains, égyptiens et qatariens qui sont à l'œuvre depuis le début de la guerre à Gaza. Ce qui sera à l'étude, c'est la libération de tous les otages et la fin définitive de la guerre. Dans le même temps, la première phase de trêve s'est poursuivie. Ce samedi, le groupe islamiste a relâché 3 otages israéliens en échange de 182 Palestiniens. Donald Trump, que l'on évoquait à l'instant, qui doit faire face aux premières réactions après la mise en place de nouvelles taxes douanières en réponse aux taxes de 25% sur les produits mexicains. Le Mexique annonce ce samedi répliquer en imposant également des droits de douane sur les marchandises américaines. Même chose pour le Canada, également soumis à des taxes et qui promet donc de faire pareil pour les biens américains et ce, dès mardi prochain. Les produits chinois, eux, seront taxés de 10% supplémentaires. La Chine, qui dit à l'instant s'opposer fermement aux droits de douane américains. C'est au tour du G7 de condamner l'offensive du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué diffusé cette nuit par le Canada, qui occupe la présidence du groupe, les ministres des Affaires étrangères des 7 pays appellent le groupe armé et les forces rwandaises qui les soutiennent à cesser leur offensive. Un autre message d'alerte a été lancé ce samedi par l'un des voisins de la RDC et du Rwanda. Il s'agit du président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, qui s'est exprimé sur sa chaîne YouTube officielle. On l'écoute.
Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Si le Rwanda continue, si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix.
Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Un outil constitutionnel controversé, dégainé pour la première fois par François Bayrou en France. Le Premier ministre français a annoncé ce samedi qu'il utilisera l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour tenter de faire adopter sans vote les budgets de l'État et de la sécurité sociale. Un pays comme le nôtre ne peut pas rester sans budget, dit François Bayrou, qui engage donc la responsabilité de son gouvernement, risquant la censure des oppositions. Le Premier ministre espère une adoption des budgets d'ici 10 jours. En Serbie, le Premier ministre Milos Vucevic, lui, avait démissionné mardi devant les manifestations qui s'enchaînent dans le pays. Mais pour autant, la contestation ne ralentit pas. Des milliers de personnes se sont ainsi réunies à Novi Sad, la deuxième plus grande ville serbe, ce samedi. C'est ici que, début novembre dernier, l'auvent de la gare, pourtant rénovée, s'était effondré, provoquant la mort de 15 personnes. C'est cet événement qui avait déclenché cette vague de protestations anti-gouvernementales et anti-corruption. C'est le deuxième plus grand rassemblement musulman au monde. Ce week-end, des dizaines de milliers de fidèles se réunissent au Bangladesh pour le Bishwa Ijtema. Comme chaque année, ces pratiquants se rendent dans le pays asiatique pour écouter les sermons d'érudits musulmans et rejoindre les gigantesques prières collectives. Nicolas Roca.
Une nuée de tentes et des fidèles qui prient à perte de vue sur les rives ensablées de la rivière Tourag. Depuis les années 1950, tous les ans, ce paysage envahit la ville de Tongi, juste au nord de la capitale du Bangladesh, Dhaka. Le Bishwa Ijtema, deuxième plus grand pèlerinage musulman au monde, se déroule en plusieurs phases entre prêche et prière. Le coup d'envoi de cette nouvelle édition du pèlerinage a été donné lors de la prière hebdomadaire du vendredi. Une cérémonie de mariage de masse a eu lieu ce samedi, avant la prière clôturant la première phase ce dimanche. L'événement se poursuit du 3 au 5 février, puis du 14 au 16. Plus de 2000 musulmans de 72 pays ont déjà rejoint le Bangladesh, dont des figures religieuses venues d'Inde et du Pakistan, alors que d'autres continuent d'arriver. Ce rassemblement de masse est un vrai défi logistique et pose de graves problèmes de contrôle des foules. 4 fidèles sont morts lors des 2 premiers jours du pèlerinage.
Nicolas Roca. En Ligue 1 de football, les cadors européens assurent, après sa qualification pour les barrages de Ligue des Champions cette semaine, le Paris Saint-Germain s'est imposé à Brest 5-2 ce samedi. C'est d'ailleurs l'affiche franco-française de ces 16e de finale de la compétition européenne. Lille, le seul club directement qualifié en 8e, l'a emporté 4-1 contre Saint-Etienne. Mais le grand événement pour le sport français ce samedi, c'était en MMA à Riyad en Arabie Saoudite, où une page de l'histoire des arts martiaux mixtes s'était écrite à seulement 28 ans. Nassourdin Imavov est facilement venu à bout de la légende nigériane de l'UFC et ancien champion des moins de 84 kilos, Israël Adesanya. Une victoire par chaos technique dès le début de la deuxième reprise. Jamais un combattant français n'avait réalisé une telle performance, Sofiane Amazian.
Les images font déjà le tour du monde. Nassourdin Imavov qui met KO dès la deuxième reprise, une légende de l'UFC, Israël Adesanya, l'un des plus grands champions chez les poids moyens. Pourtant annoncé comme outsider, le français de 28 ans a parfaitement géré son combat, en témoigne sa célébration tout en simplicité.
Je reste moi-même sur le coup, j'avais pas... j'étais moi-même quoi. Et ce que j'ai ressenti, mission accomplie. Et, comme j'ai dit, c'est un combat comme un autre, c'est une victoire et... Tout cette pression sur les épaules, ça y est, c'est fini. Et c'est tout ce que j'ai ressenti. Mais voilà, je me rends compte que j'ai battu une légende. Et je suis très heureux.
Imavov a réussi là où ses compatriotes Cyril Gane et Benoît Saint-Denis ont échoué, marqué l'histoire de leur discipline. Après une année 2024 parfaite, marquée par 3 succès majeurs face à des membres du top 10, la suite se dégage largement pour la nouvelle pépite. Direction le combat pour le titre.
J'ai quasi nettoyé la catégorie. En seulement un an, j'ai pris presque tout le monde. Je vais me classer deuxième normalement et la ceinture.
Les perspectives pour Nassourdin Imavov sont nombreuses dans une catégorie qui bouge sans cesse. La ceinture sera remise en jeu dès la semaine prochaine. Le champion sud-africain Dricus du Plessis va affronter l'américain Sean Strickland.
Sofiane Amazian, c'est la fin de cette édition. RFI, 4h10 à Paris, 3h10 temps universel.